Chapitre 18. J'ai essayé de n'être que cela. Ce fut la gentille et calme Madame Carmichael qui devait expliquer à Sarah tout ce qui s'était passé. On l'envoya chercher à la hâte. L'émotion de la découverte si inattendue de Sarah avait presque été fatale pour M. Carrisford, vu son état actuel de faiblesse. « Ma parole !» dit-il d'une voix faible à Carmichael quand on parla de faire passer Sarah dans une pièce à côté. « Ma parole, je crois vraiment que j'ai peur de la quitter, des yeux un instant. »«
Je vais m'occuper d'elle, » dit Jeannette, « et maman sera ici dans quelques minutes. »
Et ce fut Jeannette qui emmena Sarah.
« Nous sommes si contents qu'on vous ait retrouvés, » dit-elle. « Vous ne pouvez pas vous imaginer combien nous en sommes heureux. »
Donald se tenait debout, les mains dans les poches, et regardait Sarah avec des yeux pensifs et un air de regret.
« Si j'avais seulement pensé à vous demander votre nom, le jour où je vous ai donné mes 10 sous, dit-il, vous m'auriez répondu que vous étiez Sarah Crewe, et on vous aurait trouvé en une minute. »
Et c'est à ce moment que Madame Carmichael entra. Elle avait l'air très émue. Elle prit Sarah dans ses bras et l'embrassa tendrement.
« Vous avez l'air effaré, pauvre enfant, et ce n'est pas étonnant. »
Sarah n'avait qu'une seule pensée.
« Est-ce lui ?»
demanda-t-elle en jetant un regard vers la porte close de la bibliothèque.
« Est-ce lui qui était le méchant ami de mon père ?»
Madame Carmichael pleurait en la serrant dans ses bras. Il lui semblait qu'il fallait embrasser souvent cet enfant qui avait été si longtemps privé de tendresse.
« Il n'a jamais été méchant, ma chérie, et ne perdit pas réellement l'argent de votre papa. Il crut seulement l'avoir perdu. » Et comme il avait beaucoup d'amitié pour votre père, son chagrin le rendit si malade que pendant quelque temps, il n'eut plus toute sa raison. Il faillit mourir d'une fièvre cérébrale, et longtemps avant qu'il n'entrât en convalescence, votre pauvre papa mourut.
« Et il ne savait pas où me trouver, » murmura Sarah, « alors que j'étais si près de lui. »
Ce qui la frappait particulièrement, c'était qu'elle eût été si proche de lui.
« Il vous croyait en pension, en France, » expliqua Madame Carmichael. « Et il était sans cesse égaré par de faux renseignements. Il vous a cherché partout. Quand il vous voyait passer, si triste et malheureuse, il ne se doutait pas que vous étiez la fille de son pauvre ami. Mais parce que, vous aussi, vous étiez une pauvre fille. Il vous plaignait et voulait vous rendre plus heureuse. C'est lui qui demanda à Ramdas de grimper à votre mansarde par le toit et de la rendre plus confortable. »
Sarah eut un tressaillement de joie, et sa petite figure s'éclaira.
« C'est Ramdas qui a tout apporté chez moi, et sur l'ordre de M. Carrisford. Est-ce à lui que je suis redevable du rêve qui s'est réalisé ?»«
Oui, ma chérie, oui, il est bon et généreux, et en pensant à la petite Sarah Crewe, il a eu pitié de votre triste sort. »
La porte de la bibliothèque s'ouvrit, et M. Carmichael apparut. Il fit signe à Sarah d'entrer.
« Monsieur Carrisford va déjà mieux, » dit-il. « Il désire vous voir. »
Sarah n'hésita pas. Quand elle entra et que M. Carrisford la regarda, il remarqua son visage tout rayonnant. Elle s'avança vers lui, les mains jointes contre sa poitrine.
« C'est vous qui m'avez envoyé toutes ces belles choses, »
dit-elle d'une petite voix à la fois émue et joyeuse.
« Oui, ma pauvre chère enfant, c'est moi. » répondit-il.
Il était faible et épuisé par la maladie et les soucis, mais son regard rappelait à Sarah celui que son père avait souvent quand il lui parlait, ce regard de profonde tendresse. Elle ne put y résister et s'agenouilla contre lui, comme elle avait l'habitude de le faire autrefois près de son père, alors qu'ils étaient les plus grands et les plus tendres amis du monde.
« Alors c'est vous qui êtes mon ami, » dit-elle, « c'est bien vous. »
Elle se baissa, et embrassa à plusieurs reprises la main de M. Carrisford.
« Il sera tout à fait rétabli dans 3 semaines, » dit M. Carmichael à sa femme. « Regardez quel changement déjà sur son visage !»
Et en effet, il n'était plus le même homme. La petite patronne était retrouvée, et il avait maintenant de quoi occuper ses pensées et quelqu'un à qui s'intéresser. Pour commencer, il fallait voir Miss Minchin et lui annoncer le changement survenu dans la situation de son élève. Il fut entendu que Sarah ne retournerait plus à la pension. M. Carrisford y était parfaitement décidé. Elle resterait chez lui,
et M. Carmichael irait lui-même en avertir Miss Minchin.
« Je suis heureuse de n'avoir pas à y retourner, » dit Sarah. « Elle sera bien fâchée. Elle ne m'aime pas, et il y a peut-être aussi de ma faute, parce que je ne l'aime pas non plus. »
Mais fait curieux, Miss Minchin dispensa M. Carmichael de cette démarche, en venant elle-même chercher son élève. Elle avait eu besoin de Sarah, et avait appris, par une des bonnes, qu'elle était sortie de la maison, cachant un paquet sous son manteau. Et on l'avait vue entrer dans la maison voisine.
« À quoi pense-t-elle ? » déclara Miss Minchin à sa sœur.
« Je n'en sais rien, ma sœur, » répondit Miss Amelia, « à moins qu'elle n'ait fait la connaissance de ce monsieur parce qu'il a habité les Indes. »«
Ah ! Cela lui ressemblerait bien, se jeter à sa tête et tâcher de gagner sa sympathie d'une manière indiscrète. Il doit y avoir au moins 2 heures qu'elle est absente. Je ne permettrai pas une pareille indiscrétion. Je vais aller voir ce qu'il en est et faire des excuses pour sa conduite. »
Sarah était assise sur un tabouret tout contre le fauteuil de M. Carrisford et l'écoutait parler du passé quand Ramdas annonça l'arrivée de la visiteuse. Sarah pâlit et se leva malgré elle. Mais M. Carrisford remarqua qu'elle restait calme et ne montrait aucun effroi. Miss Minchin entra dans la pièce, l'air digne et sévère. Elle était habillée avec correction et sa politesse était rigide comme sa tenue.
« Je regrette d'avoir à vous déranger, Monsieur Carrisford, mais j'ai des explications à vous donner. Je suis Miss Minchin, la directrice du pensionnat d'à côté. »
Son interlocuteur la regarda un instant en silence, tout en l'observant curieusement. Il était assez vif de caractère, et il ne voulait pas se laisser gagner par la colère.
« C'est donc vous, Miss Minchin, » dit-il.
« Oui, monsieur, c'est bien moi. »
« Dans ce cas, » répliqua Monsieur Carrisford, « vous arrivez au bon moment. » Mon avoué, M. Carmichael, était sur le point d'aller vous voir.
M. Carmichael s'inclina et Miss Minchin porta ses yeux de l'un à l'autre avec un grand étonnement.
Votre avoué, dit-elle, je ne comprends pas. Je suis venue ici pour remplir un devoir. Je viens d'apprendre qu'une de mes élèves, une élève que je garde par charité, a eu l'audace de venir vous importuner. Elle l'a fait à mon insu.
Et se tournant vers Sarah, rentrez immédiatement, ordonna-t-elle. Vous serez sévèrement puni.
M. Carrisford attira Sarah à lui, et lui caressant la main.
« Non, elle n'ira pas. »
Miss Minchin eut la sensation que ses idées s'égaraient.
« Comment ? Elle n'ira pas ?»«
Non, » répéta M. Carrisford, « elle ne retournera jamais chez vous, car votre maison n'est pas une home pour elle. Son home à l'avenir sera chez moi. »
Miss Minchin recula de surprise et d'indignation.
« Chez vous, monsieur ?» Chez vous ? Qu'est-ce que cela veut dire ?
Je vous en prie, Carmichael, expliquez-le lui, dit M. Carrisford, et le plus rapidement possible.
Il fit asseoir Sarah tout près de lui et lui tint la main comme le faisait son papa. Alors M. Carmichael donna des explications à Miss Minchin, du ton calme et ferme d'un homme qui connaît à fond ses sujets et les lois qui le concernent. Miss Minchin comprit très bien et en éprouva une impression très désagréable.
« Monsieur Carrisford, madame, dit-il, était un grand ami du capitaine Crewe. Ils étaient associés dans la même entreprise. La fortune qu'on croyait perdue a été retrouvée et allait entre les mains de Monsieur Carrisford. »«
La fortune ? » s'écria Miss Minchin en pâlissant. « La fortune de Sarah ?»«
Ce sera en effet la fortune de Sarah, » répliqua Monsieur Carmichael assez froidement.
« C'est d'ailleurs, dès maintenant, la fortune de Sarah. » Certaines circonstances l'ont augmenté dans des proportions incroyables. Les mines de diamants sont plus florissantes qu'elles ne l'ont jamais été.
« Les mines de diamants ?» dit Miss Minchin, suffoquée.
Si c'était vrai, il lui semblait que rien d'aussi pénible ne lui était arrivé pendant toute sa vie.
« Oui, les mines de diamants, » répéta M. Carmichael. Et il ne put s'empêcher d'ajouter avec un sourire malicieux et qui cadrait peu avec ses fonctions.
Il n'y a pas beaucoup de princesses qui soient plus riches que Sarah Crewe, l'élève gardée par charité. Voilà 2 ans que M. Carrisford la recherche. Il l'a enfin retrouvée et il la gardera.
Puis M. Carmichael pria Miss Minchin de s'asseoir, afin qu'il lui expliquât la situation en détail. Il lui démontra clairement que l'avenir de Sarah était assuré et que ceux qui avaient semblé être perdus lui étaient rendus au centuple. Et il ajouta que M. Carrisford serait pour Sarah un ami aussi bien qu'un tuteur.
Miss Minchin n'était pas une femme intelligente, et, dans son agitation, elle fut assez sotte pour essayer de regagner ce qu'elle voyait bien qu'elle avait perdu par sa folle cupidité.
« C'est chez moi qu'il l'a retrouvée !» protesta-t-elle. « Je me suis dévouée pour elle. Sans moi, elle serait morte de faim dans la rue !»
À ces mots, Carrisford ne put se contenir. Quant à mourir de faim dans la rue, cela n'aurait peut-être pas été plus pénible que de mourir de faim dans votre mansarde.
« C'est à moi que le capitaine Crewe la confia, » reprit Miss Minchin. « C'est chez moi qu'elle doit rester, jusqu'à sa majorité. Je lui rendrai son appartement, et il lui faut achever son éducation. La loi m'aidera. »
« Allons, allons, Miss Minchin, » dit M. Carmichael. « Vous savez que la loi ne sera pas pour vous. Si Sarah désire retourner dans votre pension, je suppose que M. Carrisford n'y mettra pas obstacle. Mais cela ne dépend que d'elle. »
« Alors, je m'adresse à Sarah. « Je ne vous ai peut-être pas gâtée, » dit-elle avec un peu d'embarras à la petite fille, « mais vous savez que votre papa était content de vos progrès. Et j'ai toujours eu de l'affection pour vous. »
Les yeux gris verts de Sarah se fixèrent sur elle avec l'expression calme et ferme que Miss Minchin détestait.
« En avez-vous vraiment eu, Miss Minchin ?»« Je ne m'en suis jamais aperçue. »
Miss Minchin rougit et se leva.
« Vous auriez dû vous en apercevoir, » dit-elle. « Mais les enfants, malheureusement, ne savent jamais ce que l'on fait pour leur bien. Amelia et moi, nous avons toujours dit que vous étiez l'élève la plus intelligente de toute la pension. » « Ne voulez-vous pas respecter la volonté de votre pauvre papa et retourner chez moi ?»
Sarah fit un pas vers elle et s'arrêta. Elle se rappelait ce jour où on lui avait dit que personne ne s'intéressait plus à elle et qu'elle courait le risque d'être jetée à la rue. Elle revivait les heures qu'elle avait passées dans sa mansarde, souffrant de la faim, du froid et ayant pour seule compagnie Émilie et Melchizedek, regardant Miss Minchin bien en face.
« Vous savez bien pourquoi je ne veux pas retourner chez vous, Miss Minchin. »
Miss Minchin devint très rouge et répondit avec colère.
« Vous ne reverrez plus jamais vos compagnes et je ferai en sorte que Lottie et Ermengarde n'aient plus de relation avec vous. »
Monsieur Carmichael l'interrompit avec politesse mais fermeté.
« Excusez-moi, » dit-il, « elle verra qui elle voudra. Il n'est pas vraisemblable que les parents des compagnes de Sarah Crewe refusent les invitations qu'elle adressera à leurs enfants. » De venir la voir chez son tuteur. M. Carrisford saura arranger cela. »
Il faut admettre que Miss Minchin comprit alors qu'elle devait s'avouer vaincue. La réalité était bien pire que ce qu'elle avait imaginé. Il ne s'agissait pas d'un vieil oncle tatillon et irritable, se fâchant des traitements infligés à Sarah. Une femme intéressée comme elle pouvait admettre sans peine que la plupart des parents ne refuseraient certes pas à leurs enfants de rester les amis d'une héritière de mine de diamants. Et si M. Carrisford racontait aux parents de ses élèves combien Sarah avait été malheureuse chez elle, ce ne serait pas sans lui nuire considérablement.
« Vous vous chargez d'une enfant qui n'est pas facile, » dit-elle à M. Carrisford, en se disposant à quitter la chambre. « Vous vous en rendrez compte bientôt. Elle n'est ni franche, ni reconnaissante. Je suppose, » ajouta-t-elle en se tournant vers Sarah, « que vous vous sentez tout à fait une princesse maintenant. »
Sarah craignait que des étrangers, même animés pour elle de meilleures intentions, ne comprissent pas au premier moment son idée favorite de se conduire en tout comme une princesse.
« J'ai fait tous mes efforts pour m'imaginer que j'étais une princesse, » dit-elle à voix basse, « particulièrement dans les moments où je souffrais le plus du froid et de la faim.
« Et maintenant, vous n'aurez plus besoin d'essayer, » dit Miss Minchin avec aigreur, tandis que Ramdas multipliait les saluts en la reconduisant jusqu'à la porte. Miss Minchin rentra chez elle et fit descendre immédiatement Miss Amelia dans son salon. Elles y restèrent enfermées tout le reste de l'après-midi, et il n'est pas douteux que la pauvre Miss Amelia passa de bien mauvais moments. Elle versa des flots de larmes et dut souvent se tamponner les yeux. Une réflexion maladroite lui attira de la part de Miss Minchin une violente riposte, à laquelle Miss Amelia osa répliquer.
Je ne suis pas aussi intelligente que vous, ma sœur, et j'ai toujours la crainte de vous mettre en colère. Il serait sans doute préférable pour l'école, et pour nous-mêmes, que je ne sois pas si timorée. Permettez-moi de vous dire que j'ai bien souvent pensé qu'il eût été plus adroit de ne pas traiter Sarah Crewe aussi sévèrement, ni de l'habiller et de la loger aussi mal. Il est bien évident qu'elle travaillait trop pour son âge,
et qu'elle n'était pas nourrie suffisamment.
« Comment osez-vous dire de pareilles choses ?» s'écria Miss Minchin.
« Je ne sais pas comment j'ose le faire, » dit Miss Amelia avec l'énergie du désespoir. « Mais maintenant que j'ai commencé, je compte bien tout dire, sans me soucier des conséquences. Sarah est une enfant d'une grande finesse d'esprit, et bonne, et vous n'auriez rien perdu à la traiter avec bienveillance. La vérité, c'est que vous la trouviez trop intelligente, et c'est pour ce motif que vous ne l'avez jamais aimée. Elle lisait dans notre jeu.
« Amelia !»
tenta d'interrompre l'aînée, à la fois suffoquée de son audace et furieuse. Mais Miss Amelia était déchaînée. Perdant toute mesure, elle ne pensait même plus aux conséquences de ses paroles.
« C'est la vérité. Elle nous avait jugés. Vous, comme une femme dure et intéressée, et moi, hélas, comme une sotte et une faible, et toutes les deux, des êtres assez vulgaires et mesquins pour ramper devant son argent et la maltraiter ensuite, cet argent disparu. Elle n'était qu'une mendiante, et cependant elle se conduisait en vraie princesse. C'est la pure vérité. »
Et la pauvre femme, en proie à une violente attaque de nerfs, riait et pleurait tout ensemble, se balançant de droite et de gauche d'une manière inquiétante.
« Et maintenant, vous l'avez perdue, » continua-t-elle. « Notre pension bénéficiera de son argent, et si elle ressemblait aux autres enfants, elle raconterait comment nous l'avons traitée, et nous perdrions toutes nos élèves, et ce serait la ruine. Nous n'avons que ce que nous méritons, vous surtout, Maria Minchin, car il n'y a pas de femme plus dure, plus égoïste et plus intéressée. »
Elle était dans un tel état, et faisait tant de bruit, que sa sœur, au lieu de la morigéner, fut obligée de lui donner des soins pour la calmer. À partir de cette scène, on remarqua que Miss Minchin commença de traiter avec un peu plus de déférence sa sœur, qui, bien que jugée sotte, ne l'était peut-être pas autant qu'elle le paraissait. Le soir de ce même jour, au moment où les élèves se trouvaient réunis dans la salle d'études, Ermengarde entra, tenant une lettre à la main. On remarquait sur sa figure ronde une expression à la fois heureuse et intriguée.
« Qu'est-ce qu'il y a ?» crièrent deux ou trois voix ensemble.
« S'agit-il de la scène qui s'est passée dans le salon de Miss Minchin ?» dit Lavinia avec vivacité. « Miss Amelia a failli avoir une attaque de nerfs et a dû aller se coucher. »«
Je viens de recevoir cette lettre de Sarah, » répondit Ermengarde, en brandissant la lettre en l'air pour montrer comme elle était longue.
« De Sarah ?» s'exclamèrent-elles toutes à la fois.
« Où est-elle ?» demanda Jessie avec agitation.
« Elle est à côté, » répondit Ermengarde, « chez le monsieur indien. »
« Où donc ? A-t-elle été renvoyée ? Est-ce que Miss Minchin le sait ? Est-ce cela qui était la cause de la scène ? Pourquoi vous a-t-elle écrit ? Parlez, parlez !»
Elles criaient toutes à la fois, et Lottie commençait à pleurer. Ermengarde leur répondit lentement, comme si elle n'était pas encore revenue de la surprise que lui avait causée un passage de la lettre de Sarah. Pour elle, c'était le point essentiel, qui à lui seul expliquait tout le reste.
« Les mines de diamants existaient bien, » dit-elle débordant d'enthousiasme. « Elles existent !»
Elle n'eut plus autour d'elle que des visages ébahis.
C'était de véritables mines, continua-t-elle, avec volubilité. Mais il y eut un malentendu, et tout sembla aller de travers, si bien que M. Carrisford se figura qu'ils étaient ruinés.
Qui est-ce, M. Carrisford ?
C'est le monsieur indien, le capitaine Crew en mourut. Et M. Carrisford, atteint d'une fièvre cérébrale, s'enfuit et faillit en mourir. Il ne savait pas où retrouver Sarah. On découvrit qu'il y avait des millions et des millions de diamants dans les mines, dont la moitié appartient à Sarah. Il lui appartenait déjà quand elle vivait dans la mansarde avec, pour unique amie Melchizedek, et qu'elle était le souffre-douleur de la cuisinière. M. Carrisford l'a retrouvée ce soir, et la garde chez lui. Elle ne reviendra plus ici, et sera plus princesse qu'elle ne l'a jamais été. 150 000 fois plus, et je vais aller la voir demain après-midi. Voilà.
Miss Minchin elle-même n'aurait guère pu dominer le tumulte qui suivit, et bien qu'elle l'entendît, elle n'essaya même pas, ne se sentant pas le courage de tenir tête aux élèves, car elle était assez bien occupée de Miss Amelia qui pleurait dans son lit. Elle savait que la nouvelle avait mystérieusement franchi les murs et qu'elle ferait l'unique sujet des entretiens des domestiques et des élèves jusqu'à l'heure du coucher. Et en effet, jusqu'aux environs de minuit, toute la pension, comprenant que pour le moment tout règlement était aboli, se réunit en un groupe serré autour d'Ermengarde pour l'écouter lire et relire la lettre de Sarah. Cette histoire était plus merveilleuse qu'aucune de celles que Sarah ait jamais inventées. Et ce qui la rendait plus rare encore et plus savoureuse, c'est que Sarah et le mystérieux monsieur indien en étaient les héros.
Becky, qui avait aussi appris la nouvelle, s'arrangea de façon à monter plus tôt que d'habitude à la soupente. Elle voulait être seule et donner un dernier coup d'œil à la chambre magique. Qu'allait-on en faire? Il n'était pas probable qu'on laissât toutes ces jolies choses à Miss Minchin. On les emporterait et la mansarde serait de nouveau vide et nue. Elle monta l'escalier, le cœur gros et les larmes aux yeux, quoiqu'elle fût heureuse du bonheur de Sarah. Il n'y aurait plus de feu ce soir, et pas de douce lumière rose, pas de souper, et surtout pas de princesse dans le rayonnement du feu, racontant des histoires, pas de princesse. Étouffant un sanglot, elle ouvrit la porte de la mansarde et poussa un cri de surprise. La lampe inondait la chambre de lumière, le feu flambait, le souper était prêt, et Ramdas était là, debout, qui la regardait en souriant. « Miss Sarah s'est souvenue, » dit-il. « Elle a tout raconté au Sahib Carrisford. Elle veut que vous sachiez le grand bonheur qui lui est arrivé. Voici une lettre sur le plateau. Elle vous l'a écrite, ne voulant pas que vous vous couchiez malheureuse. Le Sahib vous prie de venir demain chez lui. Vous vous occuperez de Miss Sarah. Ce soir, je remporterai tous ces objets par le toit. » Ceci dit, Ramdas, le visage rayonnant, lui fit un petit salut et disparut par la lucarne avec une telle agilité qu'elle comprit de quelle façon il s'introduisait auparavant dans la mansarde.